journalistes sont des justiciables comme les autres.
Parce que sinon, n'importe quel journaliste peut se procurer, par une indélicatesse, des documents qui relèvent de la sécurité nationale et les mettre sur la place publique, et ça vous menace, vous et moi.
Doit-on voir une pression sur les journalistes et leurs sources ?
Clairement.
Les journalistes sont des justiciables comme les autres, expliquait la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, après que plusieurs journalistes ont été convoqués par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, IDEST, les services de renseignement de l'État. Ceci après le maintien en garde à vue du journaliste Gaspard Glanz qui couvrait le mouvement des Gilets jaunes. Ceci après plusieurs faits de violence de la police à l'encontre des journalistes pendant ces mêmes manifestations. Bref, il ne ferait pas très bon exercer la profession de journaliste sous la présidence Macron. Mais peut-on pour autant dire que le pouvoir actuel menace la profession ? Bonjour Alexis Lévrier.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Reims, chercheur associé au GRIPIC, spécialiste donc de l'histoire de la presse et des médias. Alors, est-ce que les journalistes sont des justiciables comme les autres ?
Sibeth Ndiaye n'a pas totalement tort. C'est-à-dire qu'on peut poursuivre des journalistes pour diffamation. Depuis la grande loi sur la presse de 1881, la presse est traitée comme le reste de la population. Mais dans l'exercice, et c'est ça qu'elle a soigneusement évité de dire, dans l'exercice de leur mission, ils bénéficient de protections spécifiques parce que la mission d'information a une importance spécifique en démocratie. Et donc la loi de 1881 dont je parlais, dans son article 2, protège les sources des journalistes. Et il y a une autre loi en 2010 qui a amélioré encore cette protection des sources. Donc le problème posé par toutes ces convocations de la DGSI, c'est souvent au nom de la protection du secret défense, mais, et d'ailleurs c'est la réponse que font les journalistes, ils bénéficient de cette protection du secret des sources et ils peuvent opposer, c'est ce qu'ils font à chaque fois d'ailleurs, leur droit à protéger ces sources.
Est-ce que la sécurité nationale est un intérêt supérieur à la liberté de la presse ?
En démocratie, il y a un équilibre entre les différents pouvoirs et entre les différentes libertés. Donc là, ces convocations montrent bien que d'un côté, il y a l'État qui veut protéger effectivement des secrets, confidentiels défense, secret défense, et de l'autre côté, des journalistes qui, eux, se réclament à juste titre de la nécessité pour les Français d'être informés. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas donner le sentiment que un pouvoir primerait sur l'autre. Et c'est un peu le sentiment qu'on a eu avec toutes ces convocations ces derniers mois.
Il faut rappeler qu'il y a deux dossiers dans ces convocations par les services secrets. Il y a d'une part la vente d'armes au Yémen, où des journalistes du média d'investigation Disclose ont été convoqués. Et puis, il y a l'affaire Benalla. Les deux affaires ne sont pas les mêmes. On a une affaire internationale, on a une affaire de politique intérieure. Là aussi, est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures ?
Dans le cas de l'affaire Benalla, c'est en plus une autre loi, et une loi dont on ne pensait pas qu'elle pourrait un jour être utilisée contre la presse, c'est au moment des attentats, donc sous François Hollande, en 2016, qu'on a fait une loi qui interdit en principe de révéler les noms d'agents, de membres des unités des forces spéciales. Et là, dans un article lié à l'affaire Benalla, Ariane Chemin, grande journaliste qui est à l'origine de cette affaire...
Au journal Le Monde,
c'est elle qui a lancé l'affaire en juillet dernier... a révélé le nom d'un agent des forces spéciales, pas pour s'amuser, mais parce que ça pose le problème de la place qu'avait Benalla au sein de l'Élysée, des liens qu'il avait des oligarques russes. Donc c'est tout à fait légitime du point de vue de la nécessité d'informer. Mais ça tombe sous le coup, ça pourrait tomber sous le coup de cette loi de 2016. Mais là, il y a un vrai problème, parce que ça veut dire que les journalistes devraient s'auto-censurer à ce moment-là, même lorsqu'il s'agit d'informations d'intérêt général, comme c'était manifestement le cas. Je trouve qu'il y a peut-être, dans l'interprétation qui est faite de cette loi, une volonté de censure, en tout cas une volonté de rendre plus difficile le travail des journalistes. Pour le Yémen, c'est beaucoup plus classique, c'est la protection de secret défense, et à chaque fois, les journalistes ont dit, c'est vrai pour Disclose, c'est vrai pour les journalistes de quotidien, ils ont opposé leur nécessité de protéger les sources, ils ont eu raison, c'est protégé par la Constitution, mais par la loi de 1881 et par la loi de 2010 dont je parlais également.
Des journalistes convoqués par les services secrets, ça, il y a des précédents dans l'histoire française, c'est quelque chose de nouveau ?
Oui, il y en a, et parfois des précédents connus. En 2017, c'est Edoui Plenel qui a été, alors c'est pour une affaire liée au Tchad, qui avait été convoqué avec un autre journaliste de Mediapart. En 2016, c'était Gérard Davé et Fabrice Lhomme qui étaient convoqués parce que dans les pages du Monde, il y avait un document sur des attaques en Syrie qui n'ont pas eu lieu finalement. Et la DGSI voulait savoir qui avait donné ces documents. Et le problème, c'est que c'est peut-être François Hollande lui-même qui les leur a donnés. En tout cas, c'était le sens de leur question. C'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel. Ce qui est exceptionnel et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est l'accumulation, c'est l'intensité. On a eu 9 convocations par la DGSI en quelques semaines. Ça, cette intensité, cette accumulation, on l'avait jamais eu dans l'histoire récente. Il ne faut pas tomber dans la paranoïa, mais on est obligé de regarder quelle est la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron et la façon dont il a théorisé cette pratique du pouvoir. Et on peut rappeler qu'il y a deux entretiens dont lui-même estime qu'ils sont vraiment programmatiques. En 2015, un entretien 1, où il disait « il manque un roi à la France, les Français n'ont pas voulu la mort du roi ». Et les seuls, finalement, gouvernants récents qui ont su leur plaire, c'était ceux qui incarnaient une présidence forte, quitte à être impérieuse et monarchique. Et dans un autre entretien, l'année suivante à Challenge, il assume le terme de présidence jupitérienne, et il se réclame à nouveau du général de Gaulle et de François Mitterrand. Or, plus la présidence est verticale, plus le pouvoir est fort, incarné, personnalisé, plus ça pose de problèmes pour la liberté de la presse. Ça a toujours été le cas dans notre histoire. Et finalement, il y a ces convocations, mais il y a aussi une certaine pratique du pouvoir très impérieuse, comme le disait Solène de Royer, une journaliste du Monde, une volonté de mettre à l'écart les journalistes. Ils ont perdu leur salle de presse, vous savez, dans la cour d'honneur de l'Élysée, qui donnait sur la cour d'honneur de l'Élysée.
Il n'y a plus de salle de presse, effectivement, à l'Élysée, depuis Emmanuel Macron, qui dit à qui veut l'entendre qu'il n'aime pas les journalistes, que c'est une profession qu'il n'aime pas, qu'il n'apprécie pas, qu'il ne considère pas.
Alors on peut préciser quand même qu'il a voulu rompre, et d'ailleurs dans l'entretien à Challenge, il s'opposait aux propos de François Hollande qui définissait sa présidence comme une présidence normale et qui refusait lui le terme de présidence jupitérienne, et il disait il faut une saine distance entre le pouvoir et les journalistes. Et là, de ce point de vue-là, il n'a pas tort. François Hollande avait succombé à la tentation d'une trop grande proximité avec les journalistes. Ces deux pouvoirs, ils doivent être séparés, ils doivent être à distance, mais l'un ne doit pas prendre le pas sur l'autre. Or là, c'est une tentation de ce nouveau pouvoir.
Puis il y a d'autres faits qui sont des faits de violence policière pendant les manifestations des Gilets jaunes. Là aussi, ce sont des choses, des images, des événements qu'on avait l'impression d'appartenir à un passé qui n'existait plus aujourd'hui. Quand on pratique cette profession de journaliste, qu'on est dans les manifestations, même dans des manifestations tendues, on a le sentiment d'être toujours protégé. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Est-ce qu'on a des bavures ou est-ce que là aussi, finalement, il y a une verticalité du pouvoir, il y a des ordres?
Il faut aussi dire que la police elle-même a été victime, et les journalistes eux-mêmes d'ailleurs, ont été victimes de la violence des Gilets jaunes ou de certains Gilets jaunes, pour être tout à fait précis, puisque la majeure partie d'entre eux sont évidemment pacifiques. Mais il y a une violence policière contre les journalistes. C'est le journaliste David Dufresne qui répertorie d'une manière générale les violences policières contre les Gilets jaunes, mais aussi les violences policières contre des journalistes. Et il en arrive à près d'une centaine, je crois, maintenant. Et il semble que parfois, le fait d'être un journaliste soit une circonstance aggravante aux yeux des forces de l'ordre. Est-ce qu'il y a eu des ordres, à un moment donné, de s'en prendre spécifiquement aux journalistes? Je n'en sais rien, je crois qu'il faut rester prudent.
Dernière question, Alexis Lévrier. On parle souvent du classement annuel de Reporters sans frontières qui classe les pays en fonction du degré de liberté de la presse. La France ne cesse de reculer. Nous sommes aujourd'hui à la 34e place. C'est derrière notamment l'Uruguay, les Samoa ou le Ghana. Qu'est-ce que ça signifie?
C'est inquiétant. Il y a toute une histoire d'une qui vient de la monarchie, si vous voulez, où on a exercé le pouvoir, exercé une forme de tutelle sur la presse. Et dans la Ve République, le pouvoir gaullien, puis pompidolien, a assumé, en tout cas sur l'audiovisuel public, dont Pompidou disait que c'était la voix de la France, une forme de tutelle. On a toute une histoire marquée par des journalistes dont on a empêché le travail. Edoui Plenel placé sous écoute sous Mitterrand, Claude Sérillon qui est évincé de la revue de presse de France 2, enfin d'Antenne 2 à l'époque, parce qu'il a osé évoquer l'affaire des diamants de Bokassa, et Jean-Pierre Alcabache le met tout de suite à la porte. Je vous donne quelques exemples, mais on pourrait les multiplier. Serait beaucoup plus difficilement acceptable dans la presse anglo-saxonne. Ça ne veut pas dire qu'il y a, dans tous les pays du monde et dans toutes les démocraties du monde, il y a une tentation du pouvoir d'exercer une forme de, sinon de tutelle, mais du moins de pression sur la presse. Ça existe partout et quelle que soit l'époque. Mais en France, très longtemps, ces pressions ont été plus acceptées qu'ailleurs et plus systématiques qu'ailleurs. Le problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'il revient justement, comme je le disais, à ce type de présidence quasiment monarchique et ça pose évidemment problème pour la liberté de la presse.
Merci beaucoup Alexis Lévrier. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université de Reims, chercheur associé au GRIPIC et spécialiste de l'histoire de la presse et des médias.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.